Donc ce soir, pour rappel, donc nous faisons une soirée sur directement la formation, les premiers secours en soins mentaux. Pourquoi moi à la base j'ai souhaité vraiment, on va dire, proposer ce livre blanc? Je vais vous donner un exemple tout bête. Il n'y a pas longtemps, j'étais donc en ville, là, en train de me balader avec la voiture. Et je vois au coin d'un carrefour quelqu'un qui visiblement avait un petit souci de, on va dire, de problème mental, tout simplement parce qu'il était en train un peu de délirer au milieu de la route, c'est-à-dire au milieu du carrefour. Et ben en fait, au milieu de ce carrefour, je me suis aperçu que tout le monde en avait des réactions différentes. Il y avait des personnes, moi qui étais, bon, comme je pense un peu tous, interloqué par cette personne-là qui on voyait qui délirait et qui était donc au milieu de la route. Il y avait ceux qui s'énervaient, qui avaient la réaction directement de klaxonner, de, on va dire, d'être en mode un peu vindicatif. Il y avait des personnes qui étaient en mode plutôt interloqué, qui traçaient leur chemin. Et puis il y avait des personnes qui, à côté de ça, qui étaient plutôt dans le côté de ben, essayer de potentiellement sortir de la voiture et aller aider ce monsieur. Et ben, en fait, moi, j'étais, je vous avoue, j'étais un peu bébête sur cet exemple-là, ne sachant pas en fait réellement quoi faire, si ce n'est quand même avec de l'empathie, oui, au moins ne serait-ce que déjà pas klaxonner et essayer de voir si on pouvait aider. Et je me suis dit, ben, au travers de cet exemple qui est tout bête, je me suis dit, c'est des situations qu'on va rencontrer tous dans sa vie de façon complètement différente. Alors là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je me suis dit, quand j'ai appris que cette formation existait, je me suis dit que ça serait une super occasion déjà de la faire connaître et d'avoir quelqu'un dont c'est le cœur de métier. Et du coup, ben, Letty qui est présente ce soir, qui avec le pseudo Soin-M, va pouvoir ben, nous en parler. Letty, si tu veux, je te laisse la parole pour commencer ce livre blanc.
Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous et à toutes, hein, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vous remercie d'être là ce soir pour en savoir un peu plus sur ce qu'est le programme de formation Premier Secours en Santé Mentale. Alors, comme ça a été dit, je suis donc Letty et j'exerce en tant que formatrice à mon compte sur la Drôme et l'Ardèche. Et j'exerce essentiellement auprès des salariés dans des structures professionnelles. Alors, je forme entre autres à la formation des premiers secours en santé mentale, notre sujet d'aujourd'hui. Alors, personnellement, j'ai un parcours universitaire plutôt orienté vers la sociologie. Et d'un point de vue professionnel, j'ai essentiellement travaillé comme travailleur social et ou responsable auprès de différents publics en difficulté, comme les personnes handicapées psychiques, les personnes SDF, les jeunes, les accompagnements d'aidants. Et je n'ai pas un parcours de psychiatrie ou de psychologie, et j'ai plutôt une approche de terrain. Alors, la formation de secouriste en premier secours en santé mentale, c'est quoi exactement? Eh bien, on pourrait faire un parallèle de cette formation avec la formation des gestes au premier secours physique. Vous savez, la formation où l'on apprend comment secourir une personne, à faire un massage cardiaque, à stabiliser une hémorragie, à faire du bouche à bouche, etc. Eh bien, c'est la même chose, mais on intervient auprès d'une personne ayant un souci de santé mentale. En fait, cette formation a été créée en Australie dans les années 2000, donc ça fait quand même déjà quelques années, grâce au travail de Tony Jorm, qui est professeur de médecine, et de Betty Kitchener, qui est éducatrice et qui a elle-même souffert de troubles psychiques sévères. Alors, ce programme fondateur se nomme en Australie Mental Health First Aid, premier secours en santé mentale. Et vous pouvez retrouver sur Internet au sigle MHFA si vous avez besoin de vous y référer après le podcast. La création de ce programme, elle fait suite au constat d'un grand manque d'informations à destination du public sur la santé mentale, justement, et comment aider ceux qui en souffrent. Alors, depuis les années 2000, ce programme s'est développé et est maintenant international. Il existe dans 26 pays à travers le monde, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Japon, l'Afrique du Sud, enfin, il y en a 26. Je ne vais pas tous vous les nommer, ce sera un peu long. Et la formation, quel que soit l'endroit où vous la réalisez dans le monde, elle détient le même contenu, avec une petite personnalisation au niveau de la culture du pays. Alors, ce programme est scientifiquement validé. L'ensemble des connaissances qui sont présentées dans la formation ont été sélectionnées en fonction de leur niveau de preuve et de consensus international. De plus, le processus d'évaluation scientifique est primordial à toutes les étapes du programme, du sujet, depuis sa construction et jusqu'à l'évaluation de ses effets. Alors, pour la France, c'est en 2019 que 3 structures spécialisées dans la santé mentale décident de se regrouper et d'importer fidèlement ce programme en France. Alors, les 3 structures sont la Fédération Santé Mentale France, qui est une fédération qui regroupe des professionnels de la santé mentale, l'UNAFAM, qui est une association nationale qui accompagne les aidants qui ont des proches en souffrance psychique, et enfin l'INFIP, qui est un organisme de formation qui est spécialisé en santé mentale. Donc ces 3 structures portent les mêmes valeurs de défense des intérêts des personnes souffrant de troubles psychiques et elles veillent à une meilleure compréhension et une meilleure déstigmatisation de ces maladies. Elles créent donc ensemble une association mutuelle pour adapter et officialiser le programme australien en France et elle s'appelle l'association PSSM France. C'est peut-être plus sous ce nom que vous en avez déjà entendu parler en France. Alors, cette association possède la licence du programme et elle est garante de son développement, de son suivi et de son évolution sur le territoire français. PSSM France est dotée également d'un conseil scientifique et pédagogique, qui est une instance de référence pour suivre l'évolution et la validation des supports pédagogiques de l'association. C'est PSSM France qui sélectionne, forme, évalue et accrédite les différents formateurs du territoire français, dont je fais partie, comme vous l'avez compris, et elle s'assure du respect d'un enseignement identique du programme et du respect des valeurs à transmettre. Le formateur accrédité peut travailler pour des organismes de formation, il peut travailler à son compte. Il doit, dans tous les cas, respecter le cadre et les évolutions proposées par PSSM France. Alors aujourd'hui en France, il y a 941 formateurs qui exercent et aujourd'hui, il y a 54 000 personnes qui ont déjà été formées. Le programme existe donc en France depuis 2019, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que depuis le passage de la Covid, la santé mentale est devenue un sujet encore plus préoccupant. Les chiffres ne sont pas rassurants puisque selon la dernière enquête Covid-Prev de Santé publique France, qui a été publiée en janvier 2023, donc ce sont des chiffres assez récents, 17% des Français montrent des signes d'un état dépressif, 24% présentent des signes d'un état anxieux, 10% ont déjà eu des idées suicidaires au cours de l'année 2022. Et selon l'OMS, la maladie psychique touche une personne sur 5, soit 13 millions de Français. Et sur les 13 millions de Français touchés par la maladie, il y a 3 millions de troubles psychiques sévères. Et la France est le plus gros consommateur de psychotropes au monde. 25% des Français prennent des médicaments pour des soucis mentaux en France. Et le suicide est la première cause de mortalité en France chez les 15-35 ans. Et c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Bon, je veux pas trop plomber l'ambiance, mais c'est un sujet qui apparaît régulièrement dans les médias. Mais comme vous avez pu le constater, souvent, il reste à l'état de constat avec un sentiment d'impuissance. En plus, la souffrance psychique est très stigmatisée. Il est difficile à comprendre et elle renvoie à des signes de fainéantise, de dangerosité, de faire la comédie, ce qui va entraîner beaucoup de préjugés, voire même de méfiance ou d'évitement. Et pourtant, on a tous en tête une personne qu'on a vue mal. Ça peut être un frère, une épouse, un enfant, un collègue, un voisin, un inconnu, hein, comme le citait Cap tout à l'heure, et où l'on s'est demandé mais quoi faire. Alors, dans le meilleur des cas, on aimerait intervenir, mais on ne sait pas comment. Et quand on intervient, on ne sait pas si ce qu'on a fait est constructif ou pas. Et bien, c'est justement pour pallier ces difficultés que PSSM France a mis en place cette formation dans notre pays. Alors, cette formation a pour but de secourir des personnes qui souffrent psychiquement, comme vous l'avez compris, et de les accompagner vers les soins. Alors, cela paraît évident, dit ainsi. Dire « ça n'a pas l'air d'aller, va donc voir un médecin », ça semble simple à dire dans la théorie, mais dans la réalité, cela est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il est déjà difficile de convaincre une personne d'aller voir son médecin en cas de problème physique. Alors, dans le cadre de la santé mentale, c'est encore plus difficile. Parce que la personne n'a pas forcément conscience que sa souffrance relève d'un médecin ou de soins, parce que la personne a peur du regard des autres, et si une maladie psychique est posée, peur aussi de qu'en dira-t-on, et d'être perçue différemment, voire même d'être rejetée par ses proches à l'annonce du diagnostic, ou pense aussi qu'il n'y a pas de solution, que ben, son état de souffrance est peut-être dû à son caractère et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ou bien que la maladie s'est tellement aggravée que la personne ne puisse plus agir pour elle-même et par elle-même. Alors la formation PSSM permet de lever ces freins et de ne plus laisser la personne dans l'isolement avec un état qui s'aggrave. Et ça, c'est important. Alors, c'est une formation, la formation PSSM, qui est avant tout citoyenne et c'est avant tout une aventure humaine. Elle dure 14 heures sur 2 jours, donc c'est pas très très long. Et elle se fait par groupe de 8 à 16 participants. Elle est ouverte à tout public majeur, quel que soit son degré de connaissance sur les troubles psychiques. Et elle peut être suivie dans le cadre de son activité salariée. Certains employeurs, par exemple, la proposent dans le cadre de la formation collective professionnelle. Mais elle peut être aussi suivie aussi en tant que particulier lors de formations organisées par les formateurs accrédités sur l'ensemble du territoire. Si vous avez besoin, le site PSSM France indique les coordonnées des formateurs par département et les formations proposées. Elle peut aussi être réalisée via des organismes de formation publics ou privés. Alors, cette formation, qu'est-ce qu'elle apprend ? Eh bien, elle apprend à venir en aide auprès de personnes qui souffrent déjà de troubles psychiques. Elle apprend à venir en aide auprès de personnes qui sont en train de développer un trouble psychique. Et elle apprend aussi à savoir quoi faire en cas d'apparition de crise. Mais en aucun cas, elle n'apprend à se substituer à un professionnel comme les médecins, les psychiatres, les psychologues ou le personnel soignant. Il faut plus de 14 heures de formation pour cela. Et le rôle de secouriste n'est pas d'assurer les soins, mais de pouvoir emmener la personne vers les soins. Il ne soigne pas. Durant cette formation, on va apprendre ce qu'est la maladie psychique, ses répercussions sur la vie de ceux qui en souffrent, ce qui signifie être secouriste en santé mentale exactement, quelles sont nos possibilités d'action, d'intervention, mais aussi quelles sont les limites. On aborde les quatre maladies psychiques les plus fréquentes, qui sont la dépression, dont les troubles bipolaires, les troubles anxieux, qui font bien partie des troubles psychiques, les troubles liés à l'utilisation de substances, tout ce qui est alcool, cannabis, MDA, drogue dure, qui font aussi partie des troubles psychiques, et les troubles psychotiques, dont la schizophrénie. Et puis, on va voir aussi les crises qui sont associées à ces troubles. Donc, ça va être comment intervenir auprès d'une personne qui est en crise ou en intention suicidaire, voir comment intervenir auprès des attaques de panique, auprès des personnes ayant vécu des chocs post-traumatiques, comment intervenir auprès de personnes qui ont des conduites agressives, intervenir aussi auprès de personnes qui ont des crises psychotiques sévères, hein, ça semble être le cas de la situation que présentait CAP, et puis les intoxications à la substance. On va apprendre pour chaque maladie à repérer les signes et les symptômes, à comprendre la maladie et comment la personne la vit de l'intérieur, parce qu'il y a vraiment un écart entre ce que la personne peut laisser paraître et ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, et aider la personne en situation de crise ou de non-crise. Alors, il existe un plan d'action en premier secours en santé mentale, et il va permettre de s'approprier une méthode pour savoir comment on aborde la personne à secourir, ça ne se fait pas n'importe comment on évalue la situation, s'il s'agit d'un état de crise ou pas, comment on entre en échange avec elle, comment on va l'écouter, comment on va la conseiller, comment on l'informe sur les ressources pouvant l'aider et comment on l'encourage à aller vers les professionnels. La formation est vivante, elle utilise des vidéos, des témoignages, des jeux de rôle, des quiz, des études de cas concrètes, des travaux de groupe pour apprendre à gérer ces situations et demande une participation active du groupe. Donc il faut quand même avoir un minimum d'intérêt pour cette formation pour la réaliser. Et un manuel très complet qui reprend les sujets de la formation est remis à chaque stagiaire. Il permet de consolider les acquis vus durant la formation et puis il sert aussi d'aide-mémoire quand il faut aller après intervenir auprès d'une personne. Alors en 2022, PSSM France a créé un module de formation jeune qui est plus spécialement développé pour apporter de l'aide et secourir auprès des jeunes de 12 à 20 ans. Et puis, il y a d'autres modules spécifiques qui devraient aussi être déployés dans les années à venir, bon, qui pour l'instant sont embryonnaires, mais par exemple pour comment aborder les personnes en souffrance psychique chez les personnes âgées, par exemple. Alors, l'objectif de PSSM France est de former 750 000 secouristes en santé mentale d'ici 2030, avec l'espoir de faire naître un esprit de compréhension et de déstigmatisation de la maladie mentale auprès des citoyens, et puis aussi de développer un nouvel élan de solidarité. Voilà, c'était court, mais merci beaucoup pour votre attention et nous allons pouvoir commencer notre échange questions-réponses.
Merci Letty, du coup, parfait pour la présentation. Alors, il y avait déjà quelques fils, on va dire quelques petites questions qui ont été posées. Il n'y en a pas énormément, ce qui fait qu'on va pouvoir, je pense, être assez interactif après avec chacun. C'est-à-dire que ceux qui voudront poser les questions, vous pouvez y aller. Hein. On fera le, vous faites le petit, comme à montrer l'outre, vous ferez le petit symbole, le petit point d'exclamation ou le petit point d'interrogation. Et comme ça, on vous passe après petit à petit la parole, tout simplement. Ouais. Voilà, comme montre l'outre là. Juste, j'en profite quand même, une petite question d'ordre pratique, je me permets. C'est, la formation, elle est forcément physique ou elle peut être, hein, c'est quelque chose qui peut se faire en ligne, du style, comme quand on fait les formations premier secours, ben, y a forcément besoin d'une présence parce que tu es obligé de travailler le massage cardiaque, etc. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire pour peut-être faciliter la vie à plein de personnes qui n'auraient pas, je sais pas, qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait forcément sur site ou qui peut se faire en ligne ?
Non, elle peut tout à fait se faire en ligne. Elle peut, il existe, la formation existe en distanciel, effectivement. Certains formateurs la proposent. Et elle se fait sous un autre format en distanciel, c'est-à-dire qu'elle se fait par session de 2 heures. Parce que bon, comme il n'y a pas la... Il n'y a pas l'échange physique de face à face. Elle est découpée de façon à avoir une attention plus soutenue des personnes. Mais elle existe effectivement distancielle. Sur le site Premier Secours en Santé Mentale, merci à l'Outre-Poutre de nous avoir mis l'adresse du site, vous verrez, il y a toute la liste des formateurs et ceux qui justement peuvent faire à distance.
Ok. Très rapide aussi, c'est à peu près la durée, juste une formation comme celle-ci, c'est à peu près combien ?
Alors, la formation standard, elle est de 14 heures. Donc, elle se fait soit 2 fois 7 heures, soit découpée en période de 2 heures, soit en 4 demi-journées. Elle a différents formats, selon la volonté des personnes qui veulent la réaliser, et les disponibilités aussi. Mais c'est 14 heures, en tout cas.
Et après, je passe aux questions, j'en profite juste, c'est pour vraiment être dans le sujet pile poil. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, tous les 3-4 ans, par exemple, de refaire la formation pour rester, rester dans l'actualité, pour avoir toujours le diplôme qui continue, ou c'est quelque chose qui est quelque part un peu valide à vie, ou pas du tout?
Alors, pour l'instant, en France, elle est assez récente, hein, parce qu'elle est mise en place depuis 4 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de séquence de recyclage de prévu, comme ça serait un peu comme les premiers secours physiques. Mais je pense que dans les années à venir, ça viendra. Mais pour l'instant, il y a juste les 14 heures qui donnent accès à l'attestation de secouriste. Mais effectivement, il n'est pas exclu, parce que les choses avancent aussi dans ce domaine-là, qu'il y ait des recyclages. Mais pour l'instant, c'est pas fait.
Ok, allez, ce que je te propose, là je lis, pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de questions, on va dire, en direct, donc je vais commencer par celle de HK qui ne pouvait pas être là ce soir et qui nous l'a laissée. Est-ce qu'il existe des urgences psychiatriques ? Les urgences sont-elles dans la même situation critique que les urgences classiques ? Tu auras compris ces deux petites questions.
Alors oui, il existe effectivement des urgences psychiatriques, hein, que l'on va retrouver dans les centres hospitaliers spécialisés, hein, du coup, où les personnes pourront être effectivement amenées. Et effectivement, oui, l'hôpital psychiatrique est aussi en grande difficulté, comme l'est l'hôpital général. Oui, il y a un manque de psychiatres avérés. Sur les CMP par exemple, qui sont un peu la première porte à laquelle on va frapper quand on a des troubles psychiques, hein, les centres médico-psychologiques, il y a même certaines villes, certains territoires où ils ont des listes d'attente de 6 mois avant de pouvoir recevoir quelqu'un. Donc oui, est-ce que l'hôpital psychiatrique est en crise? Oui.
Ce qui malheureusement n'est pas très rassurant, mais bon.
Non.
Une question de Nayosh, pour changer. Existe-t-il des pilules homéopathiques recommandées pour les soins psychiatriques ? Je pense que, outre le côté un peu justement caricaturé, la question reste intéressante. Est-ce que l'homéopathie pourrait, on va dire, rentrer dans le jeu pour les soins ?
J'ai envie de dire pour les troubles psychiques modérés à sévères, non. Parce que c'est vraiment une maladie, hein, la maladie psychique avec un dérèglement cérébral hein, au niveau du cerveau. Donc l'homéopathie, ça paraît un peu léger sur les troubles psychiques sévères. Après, le problème de la maladie psychique, enfin c'est pas un problème, hein, c'est ainsi, c'est qu'il y a différents degrés. On peut avoir une maladie psychique à un degré très léger et une maladie psychique à un degré très très sévère. Donc si vous avez un petit peu d'anxiété, par exemple, eh ben, peut-être que l'homéopathie suffira pour gérer un peu l'anxiété. Mais si on passe sur un trouble avéré et diagnostiqué, ça me paraît compliqué, l'homéopathie. Après, on peut toujours essayer, ça mange pas de pain, mais je pense pas que ce soit bien efficace.
À consommer avec modération. Alors là, c'était moi de mon côté, parce que ça m'intriguait, tu disais que l'Australie, en fait, est précurseur dans le domaine, et je me posais la question, en fait, pourquoi l'Australie, est-ce qu'il y a eu un sentiment peut-être beaucoup plus fort de leur côté par un manque de soins? Est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de vraiment qui a fait que, pourquoi l'Australie plutôt qu'un autre pays? Je ne sais pas si tu as...
Alors, l'Australie, déjà, parce qu'ils ont moins de problèmes avec la santé mentale que nous, c'est moins tabou, ils le voient déjà comme quelque chose d'un peu plus, pas dans la normalité, c'est difficile de parler de normalité sur la maladie psychique, mais voilà, c'est moins tabou, il y a moins ce côté on n'en parle pas, la honte, etc. Et puis, les deux personnes que je vous ai citées tout à l'heure, en fait, donc le professeur hein, qui a créé le programme, et en fait, est marié à l'éducatrice qui a accompagné du public en difficulté. Et c'est elle qui a des troubles psychiques sévères. Et ensemble, comme le médecin a été confronté à la maladie psychique de son épouse, il a pu vraiment constater, et professionnellement et personnellement, en fait, qu'il y avait un réel manque d'informations. Et c'est de là qu'est partie la création. Parce que je pense qu'un médecin, un professeur médecin, a vraiment été touché de près par la maladie, en fait.
D'accord. Donc, du coup, ouais. Désolé, je fais. Au niveau de l'État, ça a été. Justement, ils sont soutenus par rapport à ça, justement. Au niveau, que ce soit Australie ou d'ailleurs, même chez nous, c'est quelque chose qui est. Mais voilà, où y a on sent qu'il y a de l'aide malgré tout.
Alors, en Australie, oui, ça s'est beaucoup développé, mais bon, ça fait 23 ans qu'il s'est développé en Australie. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de personnes formées, ça commence vraiment à faire son chemin. Et en France, oui, c'est reconnu par le gouvernement, c'est passé aux assises psychiatriques en septembre 2021, je crois. 2020-2021, où effectivement, l'État préconise aujourd'hui à ce que les agents de la fonction publique aient tous une formation en premier secours en santé mentale. Alors, celle dont je vous ai parlé, mais ça peut être aussi une sensibilisation d'une journée. Et le gouvernement invite à ce qu'il y ait dans les différents corps de la fonction publique des personnes qui soient formées pour pouvoir former à leur tour leurs collègues. Donc, vous avez des formateurs accrédités dans différentes fonctions publiques qui vont à leur tour former leurs collègues. Donc oui, il y a un soutien du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a même les ARS, par exemple, vont proposer quelques des subventions aux associations, par exemple, professionnelles, médico-sociales et sociales, pour que les salariés puissent en bénéficier. Donc oui, le gouvernement est derrière.
J'en profite. Oli, tu voulais prendre la parole peut-être ou je vois qu'il y a une question. Tu voulais réagir.
Oui, mais je crois qu'il y a l'outre avant moi, par exemple.
Ah, d'accord. Pardon.
C'est passé dans les poules et questions. C'est l'outre a tout recensé ici. Et remercie à lui.
Bon, ok, parfait. Alors.
Un plaisir. Et avant même, on a une question de Genista. Si tu veux bien la lire, Cap.
Eh bien, il y a pas de problème, je fais ça de suite. Donc, Genista qui rebondissait en fait sur un peu mon intro. Comment en fait une personne formée serait-elle intervenue sur le cas que j'ai décrit, c'est-à-dire au démarrage avec quelqu'un qui était donc qui était visiblement dans un délire au milieu de la rue, et du coup, est-ce qu'une personne formée aurait pu justement, et comment? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme infos là-dessus?
Alors oui, tout à fait. C'est justement le cas le plus délicat, en fait. Tu as cité Cap parce qu'effectivement, c'est le cas le plus difficile parce que c'est une personne qui est visiblement en crise, hein, puisqu'elle a perdu des repères réels, visiblement, parce qu'elle est au milieu d'un rond-point. J'imagine qu'elle gesticulait, qu'elle parlait toute seule.
C'est ça, exactement. Enfin, voire même dans mon cas, elle ne parlait pas plus que ça. Tu voyais qu'elle était en mode de plutôt délire, tu sais, à faire plutôt des gestes de la tête, un petit peu, sans forcer. Enfin, voilà, on voyait qu'il y avait un délire, quoi.
Ouais, voilà. Donc là, on est sur le cas le plus délicat, puisqu'on a affaire à une personne qui a une perte de contact avec la réalité qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que, il n'y a pas de lien de confiance de tissé, puisqu'on ne la connaît pas. On ne sait pas quelle maladie elle a et quelle forme de réaction prend la maladie aussi. Parce que dans les hallucinations ou les idées délirantes que peuvent avoir les personnes malades, il peut y avoir aussi des délires de persécution et elles ont très peur. Elles peuvent être, elles ont. Il faudrait que je vous explique vraiment tout pour être clair. Elles ont vraiment trop peur et donc du coup elles peuvent être agressives vis-à-vis des gens qui viendraient l'aider. Donc c'est pour ça que là c'est délicat parce que la personne désorientée peut vivre la venue d'aide comme une agression. Donc ce qu'il aurait fallu faire à mon avis dans cette situation-là. C'est déjà repéré que la personne, bah, celle au milieu de la route, c'est qu'il y a un souci. Donc, qu'effectivement, elle peut être potentiellement agressive de par ou les visions et les hallucinations qu'elle a, ou par avoir l'impression d'être agressée. Donc, de ne pas l'approcher de trop près. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est sécuriser déjà que les gens s'arrêtent pour pas la mettre en danger. Donc, sécuriser le rond-point pour que les gens s'arrêtent. Et il y a deux solutions. Soit la personne se sent vraiment psychologiquement prête à l'aider cette personne qui est en crise, en l'approchant, en gardant un espace vital assez distancié pour pas être à son contact physique et pour pas qu'elle se sente agressée non plus par notre approche, et de commencer à essayer de lui parler, donc de se présenter et de lui demander comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que la personne, quand vous la voyez comme ça dans la rue délirée, elle vit toute une autre réalité. Elle entend sans doute des voix, elle a sans doute des hallucinations auditives ou visuelles qui lui fait percevoir d'autres choses que vous ne percevez pas. Et donc, il faut aller essayer de savoir ce qu'elle perçoit et ce qu'elle peut entendre pour savoir à quel stade elle en est dans son, je vais appeler ça un délire, mais j'aime pas ce mot-là. Dans son trouble psychotique. Et puis, au moins l'amener à venir se préserver en dehors de la route, hein, la sécurité avant tout, déjà, hein, comme sur premier secours en santé physique. Et puis après, il faut appeler les secours. Là, vous ne pouvez pas. Ça va être difficile sur une personne que vous ne connaissez pas d'aller entrer en échange avec elle. Mais au moins appeler les secours et la mettre en sécurité.
Au final, c'est appliquer le premier niveau, le passe, si
Ouais,
je veux bien
ouais,
protéger à la
ouais,
risque courir.
ouais, ouais, exactement. Sur ce cas-là, le plus sage est de faire ça. Et le plus
Ok.
efficace. Parce que. Et c'est déjà beaucoup. Hein, ça m'est arrivé aussi, hein, une fois, comme toi, hein, j'allais travailler, et comme je travaillais dans un établissement, évidemment, on s'occupait de gens qui avaient des troubles psychiques. Il y avait une personne qui ne faisait pas partie de l'établissement. Accompagné qui errait dans la rue de la même façon que tu le disais, Cap, donc en gesticulant, en criant, très agité, très agité, très en souffrance. Et ben moi je suis passée, il était très agité, et pourtant je suis secouriste, hein, mais je me suis pas sentie la force d'intervenir parce que voilà, il était vraiment parti dans son univers et je ne me sentais pas moi de l'approcher et de faire quelque chose. Ben, je suis rentrée, j'ai appelé les secours. Au moins faire quelque chose, ne pas rester dans l'indifférence, faire comme si on n'avait rien vu et comme s'il se passait rien. Voilà, au moins faire quelque chose. Et la première chose qu'on puisse faire, c'est appeler les secours. Si nous, on ne se sent pas d'intervenir.
Ok, bon, ouais, ça, un bon vieux rappel.
Ouais, ouais, ouais,
L'outre,
ouais, ouais.
du coup, tu voulais en profiter? Vas-y.
Mais ça,
Profite.
c'est.
Ah, pardon, vas-y.
Je parle de ça parce qu'on parle là de ton cas, et je citais aussi le mien, où on est dans l'évaluation d'une personne qui visiblement a des troubles psychotiques sévères et qui est en crise. Donc c'est vraiment un contexte particulier. Toutes les personnes qui ont des troubles psychiques ne font pas ce genre de crise non plus. Et il y a aussi des personnes qui font des attaques de panique, par exemple, où là on peut intervenir auprès d'une personne inconnue sans souci.
Oui, et c'est pour ça que, enfin, quelque part, quand j'avais proposé cet exemple, je pense en effet, c'était un peu le, comment dire, oui, un peu le summum de ce que je pense qu'on peut avoir. Mais bon, sur le moment, c'est tellement dur savoir comment en fait finalement se comporter. C'est là où je trouve, voilà, la situation on va dire, des réflexes va vraiment aider.
Tout à fait.
Du coup, Loutre, tu voulais prendre la parole pour une question à toi.
Oui, mais je vais vous lire la question de Zico parce qu'elle se raccorde directement. La question est la suivante. Et si cette personne en détresse, on va dire ça comme ça, et si cette personne en plein délire psychotique est un proche, comment réagir? Quel conseil avoir?
Alors, normalement, alors, je ne sais pas dans quelle situation Zico pose la question, mais si la personne est un proche, normalement, on sait qu'elle est malade. Donc, on connaît déjà la maladie, et normalement, les crises psychotiques peuvent être récurrentes. Donc, déjà, c'est un autre contexte, parce que la personne nous connaît, donc il y a un lien d'établi. Donc la première chose qu'il va falloir faire déjà, c'est ne pas. Bon, on imagine. C'est difficile parce qu'il faudrait contextualiser en fait. Imaginons, on a notre petite, je sais pas, notre frère qui, voilà, qui a des troubles psychotiques. On le sait, il est diagnostiqué et il a un traitement, mais de temps en temps, il fait des crises psychotiques. Donc comment on va intervenir? Ben déjà, on va observer ce qui se passe. Comment on va se rendre compte qu'il est en plein délire psychotique? Donc, eh ben, il va y avoir des phrases incohérentes, l'impression qu'il parle tout seul, des idées délirantes ou des affirmations complètement irréelles, hein. Je me souviens d'une situation où bah, une amie disait oui, un tel m'a mis enceinte par la pensée, j'attends des triplés, voilà, ce qu'on appelle effectivement des bouffées délirantes. Donc là, si on connaît la personne, on sait qu'elle est en train de vivre un épisode psychotique. Donc on peut la ramener déjà au lien de confiance, c'est-à-dire lui dire, tu sais que je suis ton frère ou ta sœur, tu sais que tu peux me faire confiance. Faut ramener la personne à avoir confiance en vous déjà, parce que souvent elle est très apeurée dans ce qu'elle vit. Les hallucinations et les idées délirantes sont rarement positive, hein. C'est toujours des choses qui leur font peur ou des choses très agressives. Donc, il va falloir retrouver le lien de confiance avec la personne pour que vous puissiez l'amener à voir que vous n'êtes pas un danger pour elle. Et puis, il va falloir la faire parler sur ce qu'elle vit sans entrer dans le délire. C'est-à-dire que dire que ne pas les nier ce que la personne raconte, parce que pour elle, c'est vrai. C'est comme si c'était la réalité. Une personne qui a des hallucinations, c'est aussi vrai pour elle que quand vous voyez le soleil et les nuages. Donc, c'est pas la peine d'essayer de lui dire, mais c'est pas vrai, mais tu délires, calme-toi. Ça va au contraire faire l'effet inverse où elle va se sentir incomprise et où elle risque de, justement, ça risque d'exacerber bah, sa réaction, comme quand nous, on nous prend pas au sérieux ou qu'on lui dit, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Donc, déjà, la prendre au sérieux. Rattaché au lien de confiance, mais ne pas rentrer dans le délire non plus. C'est-à-dire, si elle vous dit j'ai vu des extraterrestres cette nuit, ben, ne pas aller lui dire ah oui, t'as raison, je les ai vus aussi, moi, ils étaient verts et toi, ils étaient de quelle couleur? Vous n'allez pas rentrer dans le délire, mais vous allez lui dire que vous comprenez que peut-être qu'elle a vu des extraterrestres, que vous, en tout cas, vous n'en avez pas vu cette nuit. Ramenez la personne à. Vous croyez ce qu'elle vous dit, mais vous n'entrez pas dans son délire. Et puis, à partir de là, donc, si à partir du moment où la personne vous fait confiance, eh ben, il va falloir la ramener aux soins, hein, c'est-à-dire à revoir avec elle si elle prend bien son traitement. Généralement, les personnes qui ont des maladies, des troubles psychotiques sont sous traitement. Hein, y a pas, c'est difficile de soigner les troubles psychotiques par un autre moyen que les médicaments, qui sont assez forts. Eh ben, déjà lui demander si elle prend son traitement, si elle le prend plus. Et puis il va falloir revoir le médecin qui l'accompagne. C'est la crise ne va pas s'arrêter toute seule. Donc il va falloir progressivement amener la personne à revoir le médecin. Et ça, c'est un très très gros travail parce que ben, les personnes n'ont pas envie hein, d'aller voir leur médecin ou de retourner à l'hôpital. Et pourtant, c'est quand la personne est d'accord avec le fait d'être hospitalisée que ça va mieux se passer. Parce que faire une hospitalisation d'office, c'est toujours très, très traumatisant pour les personnes qui les vivent. Même s'il n'y a pas le choix, on est bien d'accord, même s'il n'y a pas le choix. Le mieux est quand même de réussir à aller rechercher la part de réalité qui reste à la personne, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire, Zico, pour répondre à ta question.
Bon, je pense que oui, ce que tu as expliqué, c'est vraiment en raccord. Enfin, Zico, si jamais tu n'hésites pas, ou l'outre, éventuellement.
Et oui, Zico vient d'écrire que c'est très particulier comme situation, mais je pense qu'on a bien tous compris ta réponse, et merci de nous l'avoir proposée. Moi, j'ai une question sur un domaine un peu particulier, mais bien trop contemporain. Je me déplace assez souvent en manifestation ou sur des lieux de lutte sociale, où on croise une grande variété de personnes, de tout âge, de toute situation. Et il arrive dans le cas où c'est des journées où il y a des violences autant côté manifestants qu'au niveau des forces de l'ordre, que beaucoup de gens qui y soient habitués à ce genre de situation ou non en rentrent choqués et beaucoup de mal ensuite à parler et simplement expliquer leur situation ou ne savent pas vraiment comment aborder le sujet pour mieux le vivre eux-mêmes ensuite et aussi transférer leur expérience à des gens qui ont vécu la situation ou qui ne l'ont pas vécu, qui soient sensibles à certaines luttes ou non. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des symptômes de stress post-traumatique.
Mmh.
Est-ce que toi, au niveau de ton expérience, est-ce que particulièrement tu aurais de plus en plus de consultations concernant des gens qui auraient été choqués par des violences d'État ou des violences citoyennes, on va dire, ou des émeutes ou des actes violents dans le cadre de luttes sociales? Et aussi, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui auraient vécu des situations violentes spécifiquement, donc dans le cas par exemple des manifestations ou de mouvements de mobilisation? Et quels conseils tu pourrais donner donc aux personnes qui vont les écouter, qui ne sont pas spécifiquement formées à la santé mentale, et aussi aux autres types de professionnels, mais qui n'ont pas une grande expérience de comment gérer un stress post-traumatique dû à une manifestation et à des violences de policiers ou de forces de l'ordre ou de manifestants.
Mmh. Alors là,
vas-y, excuse-moi.
Non, je te laisse terminer ta question.
Mais la dernière question, mais elle rejoindra peut-être aussi celle d'Anthony, c'est comment est-ce que vous, en tant que professionnel de la santé mentale, vous le vivez justement au niveau mental pour, on va dire, supporter toutes les histoires qui vous sont proposées? Comment est-ce que vous vous en protégez? Et si vous vous sentez vous-même en détresse, quelle va être votre démarche pour pouvoir conserver un équilibre, on va dire?
Mmh. Alors, c'est assez nouveau ce que tu dis, en fait, sur le choc post-traumatisme dû aux manifestations, parce que c'est un phénomène assez récent. Et c'est intéressant parce que, en fait, le problème que tu énonces par rapport aux violences de la police, par exemple, c'est que la violence est créée par l'institution qui est censée nous protéger. Donc là, ça devient... excusez-moi. J'ai tombé quelque chose. Donc là, ça devient compliqué parce qu'il faut déjà que la personne admette qu'elle est traumatisée par un événement, déjà. Donc, et admettre qu'on est traumatisé par une manifestation, ça peut être un peu compliqué, en fait. Mais effectivement, il va avoir un trauma, en sachant que ce qu'on appelle traumatisme, c'est quand quelqu'un est confronté à un événement, alors qu'il soit individuel ou en groupe, comme la manifestation que tu évoques, le choc post-traumatique, le traumatisme vient du fait qu'on va être confronté à des blessures graves ou à une violence grave, qui peut amener la personne à penser qu'elle va mourir. Le traumatisme, il est là. Et c'est quand on est vraiment dans une situation où on se dit, là, je vais y rester. Ma vie, je vais y rester. Là, on a un vrai choc. Et le traumatisme, c'est vraiment cérébralement quelque chose qui se déclenche dans le cerveau. Hein, le cerveau disjoncte. Donc, le traumatisme, c'est ça. Ça peut arriver sur des attentats terroristes. Ça peut arriver des personnes qui se font violer aussi. Ça peut arriver dans la maltraitance infantile, ça peut arriver aussi effectivement dans les violences des manifestations. Mais pour moi, la grande difficulté, c'est Hormis, parce que, enfin, la conséquence du choc, elle va être la même à régler au niveau du secours, mais la cause, être violentée par des forces de l'ordre, pour moi, c'est encore un registre encore plus difficile. C'est-à-dire que bah, la personne, il va falloir qu'elle s'exprime sur ce qu'elle a ressenti. Il va falloir qu'elle puisse exprimer les émotions qu'elle a ressenties à ce moment-là. Et puis, oui, je pense que ça va être surtout ça. On va être sur une approche plus psychothérapie où la personne devra réexprimer tout ce qu'elle a vécu. Mais ça me paraît... j'ai envie de partir sur un autre débat, en fait, qui n'est plus du tout le choc post-traumatique, mais sur comment... Mais c'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est comment les institutions nous rendent malades, en fait. Donc, c'est pas le sujet. Mais dans ma tête, ça part là-dessus, donc j'ai du mal à en sortir.
Sachant, juste je fais un petit rebond sur, par rapport à la situation qu'évoquait l'outre, je pense qu'en tout cas les premiers secours mentaux dans le cadre, on va dire, de ces manifestations, c'est vraiment comme tu l'expliquais, c'est vraiment l'étape number one pour, je pense, arriver déjà à sortir du contexte et après à des psychologues et à des enfin, je sais pas, après, c'est les psychiatres de prendre le relais pour...
Mais c'est difficile, enfin pour moi là, c'est difficile parce que les personnes vont effectivement être traumatisées par la manif, mais on va avoir du mal, enfin dans la société ça va être difficile de les considérer comme des victimes parce qu'elles auront été agressées par les forces de l'ordre, celles qui sont censées nous protéger. Donc, pour moi là il y a quelque chose qui est encore plus difficile dans le traumatisme, par exemple un attentat terroriste, on essaye de factualiser, hein, je parle pas des émotions. Mais un attentat terrorisme, les gens qui vivent un attentat sont victimes. On vient pas là-dessus, il y aura des cellules psychologiques qui vont se déplacer, elles vont être prises en charge, etc. Et toute la société en entier comprendra le choc post-traumatique. Alors que sur des manifestations, ça paraît moins... ça paraît plus tabou, en fait. Hein. Donc moi, c'est quelque chose qui me... Comment dire, qui me ramène à autre chose que le choc post-traumatique, mais vraiment à comment l'État fait en sorte qu'on rende ses citoyens malades.
Je comprends un petit peu ce que tu veux dire. J'imagine aussi que pour pouvoir gérer ce genre de symptômes, ça pourrait aider qu'il y ait une forme de justice qui apparaisse par la suite, c'est-à-dire de pouvoir réussir à porter plainte, par exemple dans le cadre de violences policières. Mais dans les faits, c'est extrêmement compliqué de faire valoir son point de vue. Donc,
tout à fait.
Ça devient c'est plus ça. Dur pour vivre avec ça par la suite.
Disons que rien que pour la personne qui en est victime, ça va être difficile d'aller pouvoir l'extérioriser, puisqu'elle n'est pas vraiment considérée comme une victime au niveau des yeux de la loi et de la société. Donc c'est difficile d'aller dire j'étais victime d'un CRS qui m'a mis de la bombe lacrymogène dans les yeux. Parce que ça va pas dans le bon sens, en fait. Déjà reconnaître que la personne en elle-même reconnaisse qu'elle a vécu un choc, déjà il va falloir du temps. Donc, pour qu'après elle puisse en parler et être écoutée et recevoir l'aide dont elle a besoin, c'est créer une violence à retardement, à mon avis, ça. Parce que les gens qui ont vécu des stress post-traumatiques qui n'ont pas été réglés, vont aller répéter ce qu'ils ont vécu ailleurs, enfin dans le futur. Donc, ça veut dire qu'une personne qui aurait connu de l'agressivité forte à un moment donné et qu'elle n'en a pas fait un soulagement psychologique, va dans le futur elle-même avoir des comportements agressifs et une colère en elle qu'elle va manifester. Oui. Donc c'est comment générer de la violence.
Et excuse-moi, je vais te reprendre encore un peu de temps. On parle beaucoup du côté des manifestants, mais la violence est de tous les côtés, même si on peut voir un déséquilibre. Et ça va aussi énormément affecter ceux qui la pratiquent. Et... Je veux pas simplifier la situation, mais côté santé mentale et force de l'ordre, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus ?
Eh bien, c'est un des corps de métier. Il faut savoir quand même que les forces de l'ordre sont un des corps de métier où il y a le plus de suicides. Donc, je pense que du côté des forces de l'ordre, ben, ce sont des êtres humains aussi. Hein, et je pense que quand ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils ont à faire et qu'ils sont obligés de le faire, ça va créer là aussi une distorsion au niveau de la santé mentale, hein. On rentre sur le système là d'un des critères du burn-out, où on est en contre-sens avec ses valeurs. Donc là, ben, pour ces personnes-là, elles vont effectivement créer des dépressions, des formes de dépression. Et puis pour ceux qui arrivent à plus ou moins s'en sortir, on va créer des êtres humains qui n'ont plus, qui vont se démunir de toute émotion, qui vont être obligés de mettre en place des systèmes de défense et de résistance face à la propre violence qu'ils génèrent, et qui vont finir par être des personnes qui ne ressentent plus les émotions. Donc de toute façon, de tous les côtés, c'est destructeur. Mais les forces de l'ordre ne sont pas épargnées, et ça on n'en parle pas, mais la formation PSSM France leur est aussi proposée, et ils ne sont absolument pas épargnés dans les troubles psychiques, dans le développement de troubles psychiques.
D'accord, je te remercie pour la réponse, et avant de passer aux autres, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, si on se retrouve par exemple avec une personne qu'on sent traumatisée, mais qui n'arrive pas à libérer sa parole, quel conseil tu pourrais nous donner pour essayer d'inciter cette personne à parler et pouvoir, on va dire, crever un abcès peut-être ?
Alors, si vous savez qu'elle a vécu un traumatisme, déjà, alors au début, à un moment donné, on mettait des psychologues sur l'événement aussitôt pour que les personnes puissent en parler de suite et éviter justement qu'il y ait des répercussions post-traumatiques. Et finalement, ils sont revenus dessus, les psychiatres et le corps médical est revenu dessus en disant non, maintenant, si une personne qui a vécu un choc post-traumatique ne veut pas parler, faut pas la forcer. Par contre, ça va pouvoir se révéler sous différentes formes, c'est-à-dire que une personne peut avoir vécu un choc traumatique et en fait avoir tout enfoui en elle. Par exemple, on va reprendre l'exemple d'une manifestation. Bon, quelqu'un s'est pris de la bombe lacrymogène dans les yeux, s'est pris des coups de matraque, et puis il sort de la manifestation sans effet. Enfin, il ne ressent pas les effets tout de suite. Mais en fait, ça va être enfoui en lui. Ça veut dire que le cerveau va faire en sorte que ce moment-là soit oublié ou pas vécu correctement, enfin vécu comme tel dans la douleur. Et la personne, après, va continuer à vivre normalement dans une période de déni de ce qui a été vécu. Et puis, quelques mois après, voire même quelques années après, la personne va se mettre à faire des cauchemars ou va se mettre à avoir des flashs de cette manifestation. Et à ce moment-là, c'est le cerveau qui remet en mémoire ce qui a été vécu longtemps dans le passé. Et là, la personne, elle va peut-être avoir envie d'en parler. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez intervenir. Mais il ne faut pas forcer la personne. Si elle veut pas, elle veut pas. Par contre, il y aura peut-être un moment où elle va se décider à en parler. Et souvent, les personnes qui ont vécu un traumatisme comme ça, elles se mettent à en parler dans un endroit complètement incongru. Je sais pas, moi, vous êtes dans un moment de joie et puis la personne va vous dire tu sais, moi, la manifestation, j'ai été tabassée. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais ça arrive souvent dans des moments on s'y attend pas. Je sais pas si je suis claire.
Si, si.
Voilà, quand la personne a vécu un traumatisme un peu lointain et qu'elle vous en parle dans le présent, ça va être un moment inapproprié en fait. Donc il faut être très attentif parce qu'elle ne le dira pas deux fois. Donc ça peut être en faisant les courses, tu sais chérie, à la manifestation, je me souviens que j'étais matraquée et aujourd'hui je me sens pas bien. Mais ça sera au milieu des courses. Ça ne sera pas à un moment donné, un repas intime. Les choses vont sortir à des moments inappropriés. Donc, les personnes qui sont autour doivent être très vigilantes à ça parce que c'est à ce moment-là qu'il faudra rebondir. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être à l'écoute. Et pas lancer quelque chose du style « Ah, c'est maintenant que ça te revient. » Faudra vraiment prendre soin de la personne à ce moment-là et essayer de l'amener à tirer le fil de la pelote, hein, c'est-à-dire qu'elle a lâché une phrase, et l'aider à continuer, l'encourager à parler.
Et pas dans le jugement, du coup.
Ah, surtout pas.
Voilà.
Surtout pas dans le jugement. C'est ce qu'on apprend dans la formation, mais c'est ce qu'on apprend aussi en communication en général, c'est à surtout pas être dans le jugement. Une personne qui souffre, quelle que soit la raison de la souffrance, hein, que ce soit un trouble psychotique, un trouble anxieux, un choc post-traumatique, la personne est en souffrance. Et être dans le jugement va venir casser la confiance qu'elle peut vous accorder. Déjà qu'elle vous en parle, c'est miraculeux, parce que généralement les gens restent dans le silence, ils ont honte, ils se sentent idiots, ils n'ont pas confiance à qui ils vont en parler. Donc s'ils le font déjà, c'est qu'il vous faut confiance. Et si vous derrière vous arrivez avec avec un revers cynique ou d'humour mal placé, la personne, elle ne vous parlera plus jamais de sa maladie. Donc surtout sans jugement, ouais. Sans jugement et en essayant de faire parler la personne avec des questions ouvertes, en essayant de reprendre ce qu'elle a dit aussi, hein. C'est ce qu'on appelle l'écoute active, hein. C'est-à-dire on reprend ce que la personne dit, on approfondit un peu plus loin, sans porter de jugement, pour l'aider à se sentir comprise et à avancer dans son discours.
Ah, je te remercie pour ces mots extrêmement précieux.
Je voulais moi faire un petit remerciement pour toutes les personnes qui précisent ce que sont les troubles psychiatriques, parce que j'ai pas le temps d'en parler, et c'est bien de pouvoir avoir les liens de psychom, etc. Donc merci aux personnes qui alimentent les infos.
C'est une merveilleuse communauté, c'est pour ça.
non, mais c'est vrai, je trouve ça super, parce que voilà, d'avoir rappelé les numéros de secours, tout ça, je le fais pas, donc c'est bien que ce soit complété. Merci.
Ah, tu vas voir, de toute façon, après, il y a une ou deux questions, justement, qui sont un peu sur le sujet. D'ailleurs, on peut en profiter. Petite question de Bob Paquito qui demandait quel est, l'état actuel, le contact scolaire lié au PSSM, pardon, et quel est le souhait, la volonté des académies à ce sujet. Est-ce que ça te va pour la question ou tu...
Quelles sont l'intervention PSSM dans le milieu scolaire, c'est ça,
ta question? Ouais.
Ouais. Alors, oui, effectivement, l'éducation nationale faisant partie de la fonction publique, effectivement, la formation PSSM commence à se mettre en place essentiellement dans les universités, par exemple, parce que pour la formation standard, il faut être majeur. La formation, la pédagogie, la façon dont est tournée la formation, il faut être majeur pour pouvoir la vivre. Donc là, elle va être à destination plutôt de l'université ou des jeunes majeurs. Et après, on n'a pas encore de formation qui intervient auprès des jeunes directement, mais la formation jeune intervient auprès des intervenants qui interviennent auprès des jeunes, c'est-à-dire les profs, le personnel administratif, le personnel d'éducation, etc. Et ces personnes-là, oui, sont formées, commencent à être formées pour mieux accompagner les jeunes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Par contre, pour ce qui est primaire, enfin, ce qui est niveau maternel, primaire et collège, pas encore. Ça se développe, mais pas encore. Il n'y a pas de formation encore spécifique pour les petits.
Mais c'est déjà bien, en effet, que ça... Que
oui, ça prend. Oui, ça prend. Ça prend. Ça serait bien que ça prenne encore plus vite. Mais il n'y a pas que PSSM. Hein, l'éducation nationale, mais aussi des actions de prévention. Ils mettent en place aussi des éducateurs ou des médiateurs d'écoute à disposition dans les lycées. Alors, bon, le problème, c'est que c'est super hein, d'avoir un médiateur, des éducateurs ou des écoutants dans les lycées ou dans les collèges. Mais le problème, c'est que comme c'est dans le champ du collège et du lycée, souvent les jeunes n'osent pas y aller parce que ça reste trop dans l'univers scolaire. Mais ça a le mérite d'exister et ça commence, ouais, c'est bien. Et c'est bien d'autant plus que la jeunesse est extrêmement touchée. Hein, les lycéens, là, au niveau des dépressions, des risques de suicide, il y a une augmentation, c'est assez préoccupant. Et ça entraîne plein d'autres questions qu'on ne va pas pouvoir développer ce soir, mais qui me viennent, mais notamment sur le traitement médicamenteux des adolescents, etc. Mais bon, c'est pas le sujet.
Écoute, justement, Olifax, est-ce que tu avais une question peut-être sur le sujet ou complètement autre chose? Tu voulais intervenir tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question par rapport à l'univers qui nous entoure ici sur l'afterthinking. C'est qu'en fait, on reçoit plein de gens qui viennent pour discuter tout un tas de choses. Mmh. Et assez souvent, on a des gens qui sont dans une détresse assez, assez élevée. Donc, Internet, c'est un endroit un peu particulier qui peut être très agressif en même temps où les gens peuvent se livrer très facilement.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de conséquences pas de conséquences dans leur vie immédiate à ce qu'ils disent.
Oui, tout à fait.
Et assez souvent non, heureusement, mais de temps en temps, nous avons eu des personnes qui sont venues discuter avec nous et qui étaient dans des états de détresse assez, assez avancés. Très difficile pour les gens qui étaient présents à ces moments-là de les aiguiller. Parce que déjà, il y a toujours généralement une personne qui aime bien se moquer. Mais justement, c'est est-ce que tu as des conseils sur comment réagir face à ce type de personne. C'est-à-dire, je ne parle pas de la personne qui a des croyances un peu cheloues. Hein. Je parle véritablement d'une personne qui est dans un état où elle ne va pas bien du tout. On a déjà eu des gens ici qui nous ont parlé de suicide, d'aller se foutre en l'air, d'aller se battre avec des gens, ou ainsi de suite, parce qu'ils n'en pouvaient plus pour tout un tas de raisons, qu'elles soient personnelles, professionnelles, ou pour une fois, c'est arrivé imaginaire.
Mmh. Sur les échanges comme on a aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent...
Oui, tout à fait. Oui, généralement, des heures incongrues, mais ça arrive.
Et vous êtes en collectif à ce moment-là ?
Ça dépend. Des fois, on est en très petit comité, d'autres fois, on est un peu plus nombreux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un Discord qui descend d'une chaîne YouTube qui a quand même un succès raisonnable. Et on traite de sujets de fond concernant l'état du monde sur différents aspects, qu'ils soient économiques, politiques, ou des sujets plus spécialisés comme l'informatique. Beaucoup de personnes voient ce Discord comme un endroit où on peut avoir des informations et peut-être même dans l'espoir de réponses. Mais lorsqu'on est j'appelle ça pudiquement une espèce de déséquilibre mental, autant au niveau de sa propre santé, autant en se posant des questions et surtout en se faisant des soucis pour le futur actuel, on essaye de trouver des endroits où on pourra échanger et ça peut apporter des fois des témoignages qui peuvent être assez marquants pour les écoutants.
Oui. Alors, je pense, à mon avis, ce qui serait bien de faire, mais c'est, vous n'en avez peut-être pas la possibilité, hein, je ne sais pas trop comment ça se passe, ça serait d'isoler la personne. C'est-à-dire, par rapport au chat, lui dire, écoute, on passe sur un autre mode de communication et isoler la personne pour en parler seule, pas en collectif. Faudrait l'amener à tu parles de ça, c'est un sujet important, viens on passe sur un autre réseau et on en discute ensemble. Et que la personne c'est vrai qu'il faut quand même avoir quelques bases en premier secours, mais effectivement inviter la personne à en parler sur un autre réseau en individuel, et puis déjà l'écouter, et puis après l'orienter vers des écoutes peut-être plus liées à la dépression, où il y a des sites comme le trèfle, je pense, qui peut répondre à ce genre de personnes. Mais à mon avis, il faut l'isoler et lui parler à elle en individuel et mettre en place le premier secours. Allô, allô, il y a quelqu'un ?
Oui, on t'entend.
Voilà, de ne pas rester en groupe. Parce que... La personne
après l'isoler et puis en petit comité, j'imagine. Parce que pour l'intervenant, typiquement, moi, si ça m'arrive demain, il y a la peur de mal faire par rapport à cette personne. Moi, je suis pas du tout compétent dans le domaine que vous pratiquez. Je dois mettre formation ou autre. Donc, je serais extrêmement réticent à prendre une personne tête contre tête, une personne que je connais pas, attention, pour essayer de l'aiguiller, parce que déjà, faut qu'elle accepte. C'est très particulier à
ça va être gérer. C'est ce qu'on apprend aussi dans la formation. Je fais pas de la pub, hein, c'est pas le but, mais effectivement on apprend à comment approcher la personne pour l'amener à accepter d'être isolée. Donc effectivement, on va pas lui dire j'ai l'impression que tu vas pas bien, on va s'isoler, hein, parce que là tu déranges le groupe. Effectivement, on va lui dire oh là là, tu es en train de poser un sujet très important et plutôt intime, est-ce qu'on pourrait pas en échanger ensemble sur un autre mode ? L'inviter sans lui faire mettre en avant qu'on la met à part, non pas pour l'isoler, mais pour la prendre en compte dans toute son individualité, en fait. Hein. Quand je dis de l'isoler, c'est pas pour la mettre de côté, c'est pour justement la prendre en compte dans son entièreté. Okay. Alors après, quoi faire quand on est à deux avec elle ? Déjà l'écouter sans jugement, et puis la laisser parler. Quelquefois, les personnes, rien que le fait d'être écoutées, et où la parole est accueillie, hein, quelqu'un qui est en colère par exemple, le fait d'entendre la colère et que la personne soit comprise, ça peut commencer à baisser les tensions dans un premier temps. Après, s'il y a des intentions suicidaires, là normalement faut pas lâcher la personne. Il y a un numéro qui existe, mais le trèfle doit le savoir aussi, c'est le 3114
qui est... ça c'est la réaction que j'ai vue sur ce moment là mais c'était justement savoir comment, enfin juste un conseil, effectivement l'isoler. Heureusement, on est toujours en petit comité. Mais j'étais savoir s'il y avait entre guillemets une méthode qui fonctionnait mieux que les autres.
Oui, mais oui, parce que le, bah disons, déjà l'isoler parce qu'on, vous pouvez pas laisser un sujet, enfin vous pouvez pas laisser une personne prendre le groupe sur ça, enfin une personne qui a des intentions suicidaires, vous pouvez pas laisser l'ensemble du groupe autour de ce sujet. Et puis elle pourra pas non plus, elle pourra mieux s'exprimer à deux déjà que seule. Mais après, enfin les intentions suicidaires, faut être un peu formé quand même, hein, parce que on peut être aussi se retrouver face à notre propre impuissance, hein. C'est-à-dire que c'est la personne qui reste quand même maître de ses intentions et on ne sait pas ce qu'elle va faire derrière. Donc nous, on peut intervenir, mais vous ne savez pas après comment les choses vont tourner.
Complètement. La personne qui se déconnecte pendant la discussion, c'est dur à gérer.
Qui se déconnecte.
Tout d'un coup, elle décide de quitter la conversation pour une raison ou une autre.
Ouais.
Et là, vous êtes.
Ouais. Et vous ne savez pas ce qui se passe en plus, vu qu'il y a de la distance. Non, mais ça, c'est. Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases en secourisme, en santé mentale pour accompagner. En tout cas, déjà, prendre en compte la personne, lui dire que ce qui est, enfin, que c'est important ce qui arrive et que c'est pas du n'importe quoi. Déjà, la prendre en considération, c'est déjà les premières choses à faire. Enfin, lui dire, ah, bah, t'as raison, t'as des intentions suicidaires, t'as choisi quoi, la corde ou le pistolet? Voilà, pas faire de cynisme, pas, au contraire, dire, oh là, c'est très important ce que tu évoques et il faut qu'on en parle, quoi. Et voilà, et la laisser parler et oui, c'est ce qu'elle a le mieux à faire et l'aiguiller vers des numéros. Des numéros, il y a le 3514, mais il y a plein d'autres, écoute amitié, enfin il y a plein de sites d'écoute qui peuvent aussi prendre le relais, mais c'est le plus difficile à gérer. Quand vous êtes secouriste et que vous accompagnez des personnes dans ce sens-là, enfin moi je l'ai vécu, voilà, vous serrez les fesses, quoi, quand vous raccrochez, vous dites pourvu que ça aille, quoi, et que demain je l'ai au téléphone. Donc c'est compliqué.
Merci pour ce retour.
Et je pense justement que la passerelle est faite. On va passer après sur la question des vorales, mais je me dis, ça vaut le coup là que Anto, si tu peux prendre peut-être le micro pour à la fois en profiter de poser ta question, de toute façon qui était juste après, et peut-être nous faire, peut-être éventuellement, si tu as une petite analyse de trois petits conseils de toi, de ton expérience avec le trèfle, en profiter de mutualiser ces expériences.
Oui, je vois qu'Anthony a mis savoir se protéger, c'est la base en tout, tout à fait. Hein. On n'en a pas parlé, mais si, voilà, peut-être qu'Anthony va nous en parler.
Voilà, j'essaie de trouver le bouton pour pouvoir le push to talk là, sans écrire dans le chat. Merci de donner cette parole parce que je pense que ça peut être intéressant de recroiser ce que tu as dit, Laetitia. Pour le coup, c'est vrai que quand on n'est pas formé, la priorité, c'est quand même de se protéger, pour le coup. C'est inutile d'essayer de trouver les mots si on les a pas. Par contre, d'en parler en équipe, je pense que même si on est sur un serveur Discord ou entre amis, de trouver le soutien entre nous, déjà, premièrement, et de pas laisser la personne. Et effectivement, ce que tu as dit qui était très bien, quand on parle d'isoler la personne, c'est pas de la mettre de côté, mais justement de ne pas qu'elle puisse parler de ses problèmes déjà ouvertement, surtout sur Internet, parce que ça peut être aussi extrêmement dangereux pour elle. Mmh. Voilà, ce qu'on appelle des haters, etc., des gens qui veulent s'amuser. Je rebondis aussi sur le fait de ne pas essayer de rigoler un petit peu, essayer de faire passer autre chose. Rien que le fait de parler avec quelqu'un, lui donner la possibilité de s'exprimer, c'est pas moins de plus de 90% de chances d'éviter que la personne se fasse du mal ou passe à l'acte. Et pareil, un autre sujet, est-ce que de parler du suicide, du mot suicide avec quelqu'un, est-ce que ça peut alimenter l'envie? Eh bien, en fait, pas du tout. Mm-mm. Donc, oui, il faut se former si on peut. Franchement, 14 heures, c'est vraiment quelque chose de très court. Après, quand ça nous dépasse, et ça, on a le droit de l'accepter. Il faut l'accepter. On n'est pas des super-héros. Si quelqu'un, non, lui tend la main, si elle ne la prend pas et qu'elle la lâche, ben, il faut être en accord avec ça.
Tout à fait.
Après, voilà, et ça c'est vraiment le pilier pour vous en priorité. Si le pilier, vous n'êtes pas un bon pilier, bah, ça va se casser la tronche à un moment ou un autre. Et vous avec. Donc l'empathie c'est une chose, par contre la sympathie et autres où vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, je savais pas quoi répondre, c'est de ma faute, bah, autant vous dire que on va vous récupérer à la petite cuillère quoi. Donc c'est en tout cas c'est intéressant comme sujet pour le coup. Je suis très content d'être venu pour le coup.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony, et je te remercie de le compléter. C'est qu'effectivement, quand une personne a des intentions suicidaires, le fait d'en parler ne va pas l'aider à passer à l'acte. Au contraire, ça l'a libéré du fardeau de vouloir passer à l'acte.
Donc, et c'est jamais anodin. Parlera.
Voilà, et c'est et tout à fait. Et faut toujours prendre, ouais, faut toujours prendre au sérieux ce genre de paroles, parce que même si elles sont dites dans la manipulation, elles sont dites, et de toute façon, c'est important. Faut leur mettre fin à ces jours, c'est pas anodin, et ça doit toujours être pris au sérieux. Et c'est vraiment important de se poser la question à la personne. Enfin, si vous avez un ami qui va pas bien, lui dire, as-tu des intentions suicidaires? Ça va pas lui donner l'envie de le faire, ça va
pas
justement peut-être l'aider à le poser et à enfin le dire à quelqu'un alors qu'il ose pas. Et c'est là que vous allez peut-être l'aider le plus.
Et je vais replomber la soirée, désolé. t'as dit une phrase tout à l'heure sur les chiffres. C'est entre 9 000 et 10 000 morts par an quand même.
Oui.
En France, on est le septième pays avec le taux de suicide le plus important.
Voilà, il y a un suicide toutes les heures.
Donc, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait autant de monde sur ce livre blanc. Parce que qu'on soit touché de près ou de loin ou simplement en tant que citoyen, je pense que c'est intéressant, c'est même plus qu'intéressant, c'est d'utilité publique en fait, autant que de savoir faire un massage cardiaque. Hein,
tout à fait. Tout à fait. Donc, on est tout à fait d'accord, on ne laisserait pas quelqu'un dans la rue faire une crise cardiaque, donc pourquoi laisserait-on quelqu'un en danger de santé mentale?
Et puis c'est vrai que Discord, après, je ne le connais pas. Tant que ça, et pourtant depuis la création de l'asso, ça va faire 3 ans, je commence à comprendre un peu aussi les réseaux sociaux, et c'est vrai que les réseaux sociaux, on est là pour rigoler, etc. Et pourtant, on est des vrais gens derrière, vrais gens. Donc si vous ne savez pas le gérer, pas de souci.
Passez la main.
Toujours un ami, passez la main, exactement, passez la main. Tiens, ami, copain, copine, frère, soeur, ami, proche, machin, je suis embêté avec ça. Et passez la main, voilà. Passez la main. Et il y a Discord aussi. Hein, si vous avez des doutes, vous le gérez plus que moi, hein, l'application Discord. Vous pouvez signaler à Discord que quelqu'un est en train de parler de ça. Et eux, ils vont devoir le gérer.
Voilà. Le tout, c'est pas de laisser la personne toute seule avec ça, en fait. C'est de tendre la main, comme tu disais.
Si on n'arrive pas à le gérer.
Si on n'arrive pas à le gérer, oui.
Et même quand on sait le gérer, il faut bien être entouré quand même.
Oui.
Ça, c'est la base. Hein. Pour le coup, la formation, c'est une chose. Mais après, on n'a pas obligé d'être formé pour savoir avoir de l'empathie, avoir le sens de l'écoute. Parce que c'est vrai que ça reste un art. Hein. On ne sait pas écouter. Hein.
Tout à fait.
Ça s'apprend.
Oui.
Ça s'apprend.
Oui, je te rejoins complètement. Je ne sais pas si ça parle aux autres personnes, mais oui, tout à fait.
Mais... Surtout, il y avait ta question, Anto, et après, je passe à Evora. Tu avais la question de, justement, est-ce que, Letty, est-ce que toi, tu as des clés, enfin, le but, c'est pas de donner, est-ce qu'il y aurait quelques petits bouts de clés qui te permettent déjà de te protéger, et en number one, par rapport à ce qu'il disait, par rapport à l'empathie, par rapport à la sympathie qu'on peut forcément avoir pour développer pour la personne et pour la protéger, comme se protéger, il y a peut-être des 2-3 clés.
Comment se protéger soi, tu veux dire? Comment on se protège soi quand on a affaire à un public en difficulté? Comment on fait, soit émotionnellement, etc., pour continuer à avancer?
Oui, en quelques mots, parce que sinon on peut digresser, je pense.
Alors, déjà, généralement, quand tu travailles dans ce milieu-là, tu es formé pour. Donc, tu sais... Tu as déjà des clés, des bases pour déjà dans la relation. Quand tu es dans une relation d'accompagnant, tu n'es pas dans une relation d'affect. Enfin, tu donnes, mais tu n'es pas. Enfin, comment expliquer? Comment je vais l'expliquer? Quand vous allez voir votre médecin, il vous écoute, il vous soigne, mais il ne vous parle pas de lui. Mais il est quand même dans la relation d'aide auprès de vous. Et il va vous écouter, etc. Eh ben, quand on est, c'est pareil pour le personnel soignant, et quand on aide les autres, on a cette position-là, c'est-à-dire qu'on est dans l'empathie, on est dans le don de soi, mais on n'est pas déjà dans la relation d'affect. C'est pas des amis. Les gens qu'on aide, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos frères et sœurs, ce ne sont pas notre famille. Donc déjà, ça met un cadre, déjà celui-ci. Et puis après, eh ben, faut moi le ce qui me permet de me protéger, c'est ben comme le disait Anthony, si je le sens pas, j'y vais pas. Je sens mes limites et si je sens que là je suis pas en capacité de pour plein de raisons hein, ça peut être que la situation est trop complexe ou je suis pas en état ce jour-là ou moi-même je suis emplie d'émotions négatives donc je serai pas un bon pilier. J'y vais pas et je passe la main. Et l'autre chose aussi, c'est de pas être seule sur les situations. C'est-à-dire et ben j'ai eu le cas par exemple d'un accompagnement d'une jeune fille mineure qui était une camarade de mon fils, et vraiment dans une situation, envie de se foutre en l'air, elle appelait mon fils à minuit en disant « je vais me foutre en l'air », etc. Donc j'ai pris le relais, parce que ça perturbait bien mon fils aussi. Et bon, bah là, je me le suis sentie, donc j'y suis allée, je savais jusqu'où je pouvais aller, en termes d'accompagnement physique, en termes d'accompagnement moral, et c'est savoir où sont ses limites, et aussi reconnaître son impuissance. C'est-à-dire se dire qu'à un moment donné, ben celui qui décide, c'est l'autre, c'est pas soi, malgré tout ce qu'on peut faire pour lui. Et puis, je me suis égarée dans mon raisonnement. Et puis ne pas rester seule, c'est-à-dire que quand la jeune, elle ne voulait pas en parler à ses parents, elle ne l'avait dit qu'à moi et à mon fils, et qu'elle voulait se foutre en l'air et qu'elle appelait avec le couteau sur les veines. J'ai, avec son accord, prévenu son médecin et son psychologue. Je suis pas restée seule avec ça. Ça, c'est très, très, très important de ne pas rester isolé, à mon sens. Pas d'isolement, connaître ses limites et accepter l'impuissance. Voilà, je dirais que, et ne pas entrer dans une relation d'affect comme on pourrait le faire avec ses proches. Voilà, moi, mes façons de gérer, en fait, l'accompagnement.